C'est-à-dire faire passer la parole, contrôler que les gens qui ont levé le doigt ne sont pas... Jeanne-Marie, d'accord, allez, donc je reste à côté de Jean-Claude, parce que voilà, et puis quand il aura fini, tu viendras à ma place. Merci. Jean-Claude, nous t'écoutons.
Bonjour à tous.
Et à toutes.
Alors, et à toutes. Je m'excuse, j'ai pris le vieux sigle qui est sur le site national.
Ah oui, tu t'es trompé.
Bon, c'est pas grave. C'est entre nous. Sexologue clinicien, ça veut dire que je ne suis pas médecin. De formation initiale, je suis ergothérapeute. Paramédical, hein, j'ai travaillé longtemps en psychiatrie, mais je ne suis pas médecin, et j'ai fait, il y a une dizaine d'années, la formation de sexologue clinicien à la fac de médecine de Montpellier, parce que le sujet m'intéressait, j'avais plein de choses que je voulais approfondir, et puis maintenant j'ai des consultations, ça me passionne. Mais lorsque j'ai fait cette formation à la fac de médecine, point de clitoris. On avait beau demander, on avait beau poser des questions, les propres, les médecins, souvent connu et reconnu dans le milieu de la sexologie, refusait de parler du clitoris.
Quelle année c'était ?
Il y a 10 ans. Une dizaine d'années. C'est assez étonnant.
C'était des hommes.
Et des femmes aussi, des femmes qui aussi. Bossaient en touche et qui, dès qu'on parlait du clitoris, elles nous ramenaient immédiatement sur l'orgasme vaginal. Hein ? À la fac de médecine, il n'y a qu'un seul orgasme unique. Il n'y a que ça qui compte et c'est l'orgasme vaginal. Alors, je me suis posé des questions là-dessus et j'ai essayé de comprendre. Ce que j'ai mis dans un livre ici, ce livre est paru en 2012, il y a eu un problème d'éditeur, je vois qu'il y a une ancienne version qui est sortie sur une table, et il est ressorti avec une nouvelle version, c'est le même texte, hein, un tout petit peu enrichi. Une femme qui est sexologue, qui faisait ses études de sexologue, Madame Sautivet, en 2009, a fait une enquête dans la région d'ailleurs, auprès d'adolescents, en leur demandant de représenter d'un côté le sexe féminin et de l'autre côté le sexe masculin. Alors le sexe masculin, ils y arrivaient presque toujours avec le service trois pièces, là, comme on dit, et vous voyez que pour le sexe féminin, ils étaient très en difficulté, représentant souvent l'appareil reproducteur qu'on leur avait enseigné, mais étant complètement démunis devant la possibilité de parler de leur vulve. Hein. Bon, c'est une partie de leur corps qui en plus est à portée de main, c'est à portée de vue même avec un simple miroir, mais elles ne le connaissent pas. Et dans les commentaires qui étaient... il y avait des commentaires qui étaient en fin de formulaire, elles leur demandaient qu'est-ce que vous avez pensé de l'enquête. Et 45% des élèves disaient grosso modo « Burke, c'est dégueulasse, on ne peut pas en parler », un truc comme ça. Et puis il y en a 55% qui disaient ben, « Alors je vous ai mis celui-là parce que finalement il y en a qui ont réussi, comme quoi ce n'était pas non plus impossible. Hein, ceux qui s'étaient documentés, oui. Ce n'était pas non plus impossible. » Et alors, il y en a 55% qui disaient « On aimerait bien en savoir plus, on mourra moins idiot, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. » Ce qui est quand même assez, assez surprenant. Donc ces deux événements, plus d'autres événements que je décline un peu dans le livre, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer maintenant, j'ai commencé à vouloir réfléchir. Je vous mets ce dessin de Wolinski, c'est un peu un hommage à Wolinski, un dessin qu'il a publié en 72, et dans un autre livre d'ailleurs du docteur Carpentier, mais qui montre à quel point il était clairvoyant. Moi en 72, j'aurais été incapable de faire ce genre de réflexion. Tu peux jouer avec tout, avec ton corps. Et la petite fille là, qui est toute adolescente avec ses petits seins, elle dit « Oui maman ». Alors je vais vous expliquer pourquoi on est arrivé là, à mon sens, hein, les éléments que j'ai trouvés. Dans le livre, je reparte un peu loin, on ne va pas le faire maintenant. Je vous donne une petite information sur cette lampe à huile. Alors, chez les Romains, la sexualité était très présente. Elle n'était pas forcément des meilleures non plus, on va pas en discuter maintenant. Mais une petite anecdote que j'ai trouvée en faisant mes recherches, pour fabriquer ce genre de lampe à huile, hein, qui là on est quasiment même dans la pornographie presque, hein, parce qu'on voit vraiment l'acte sexuel et les sexes en action, les moules qui servaient à faire le décor, c'est les moules qui servaient à estamper, en poterie on appelle ça estamper, c'était les artisans potiers de la vallée du Rhône qui s'étaient spécialisés dans ce genre de scène, hein, et qui fabriquaient les moules qui étaient exportés dans tout l'Empire. Et d'où le terme de gauloiserie, hein, qui nous est resté. Gauloiserie, pourquoi? Parce que c'était les Gaulois qui fabriquaient ces moules et qui étaient. Après, les objets. Le transport était très cher à l'époque, hein, parce que les transports, c'était animal, avec la force animale. Donc, ils transportaient que les moules. Et après, dans tous les ateliers de l'Empire romain, ces moules servaient à fabriquer toutes sortes d'objets. Il y en avait beaucoup, beaucoup, qui longtemps ont été cachés. Hein, et qui était dans les collections secrètes interdites parce que c'était pas correct de montrer ce genre de choses. De l'Antiquité, il faut retenir aussi quand même quelque chose, c'est Hippocrate. Hippocrate qui était donc, on va dire en grosso modo, en 300 avant Jésus-Christ, qui a été un philosophe médecin, un humaniste comme c'était à l'époque, et qui a beaucoup marqué la médecine, le serment d'Hippocrate, et vous allez voir qu'il est resté présent à tort même dans la médecine jusqu'à la fin du 19e siècle, d'une manière très étrange comme je vais vous le montrer. Alors, quand je vous parlais d'Hippocrate, les travaux d'Hippocrate ont été repris et amplifiés par Galien, qui était au tout début de l'ère chrétienne. Et Galien, lui, a amené la notion des humeurs. Vous savez, il y avait quatre grandes humeurs, il fallait que ces humeurs s'écoulent régulièrement, mais sans excès, parce que bon, si restait bloqué, ça pouvait créer des blocages internes et des maladies et des symptômes, et si jamais il s'écoulait trop, ça pouvait créer de la fatigue. Et vous verrez que ce concept sera omniprésent au 19e siècle, étrangement. Les premières apparitions claires du clitoris, c'est les médecins de la Renaissance, c'est 1500. 60 exactement, hein. C'est un dénommé Fallope, Colombo, excusez-moi, Colombo. Son homonyme, Colombe, avait exploré les océans 100 ans auparavant, et Colombo, lui, a exploré la vulve et a décrit le clitoris d'une manière très romantique d'ailleurs. Les premières représentations graphiques, c'est quand la gravure apparaît dans l'imprimerie, et c'est tout début du 17e siècle. Hein, et vous voyez que d'entrée, alors la beauté de ces dessins, et vous voyez très bien que le clitoris est représenté avec le gland, le corps et les deux piliers, hein, qui viennent s'insérer sur les ischions. Vous verrez après, même il y a une gravure, on voit très très bien les ligaments d'insertion sur les ischions. Les ischions, c'est les os qu'on a, vous savez, sous les fesses. La similitude avec le pénis était très bien connu. Ils avaient fait des expériences sur les animaux. Par exemple, les chiens ont un os pénien. Les chiens ont un os qui participe à la rigidité du pénis. Et bien, ils démontrent que les chiennes ont un os là dans le clitoris. Donc, vous voyez, ils avaient très très bien compris la similitude. Je vais en reparler un tout petit peu après aussi. Et ici, même, elle est exagérée, hein, parce qu'il y a une collerette qui est improbable. Hein. En D, là, il y a une collerette qui, à mon avis, bon. Ben, voilà.
Donc ils faisaient des dissections.
Beaucoup. Voilà. C'était aussi, alors, comment dire, ils en parlent énormément parce que le droit de disséquer les corps humains était récent. C'était une victoire des médecins de la Renaissance, hein, à Padoue, à côté de Venise. Hein. Mais avant, ils avaient beaucoup travaillé sur les animaux. Et ils avaient trouvé les similitudes entre les différentes parties, squelettes et parties des animaux. Alors, un petit peu plus tard, De Graaf le représente ici. Vous voyez, là, il y a les ligaments d'insertion. Vous voyez, il était très bien connu. On retrouve cette similitude exagérée avec le pénis, avec même, enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir tout au fond, mais il y a comme un méa urinaire, quoi, ce qui est hautement improbable. Alors, il le connaissait très bien parce que il parlait aussi, alors, il y avait l'hypertrophie du clitoris, qui est une malformation qui est assez courante finalement, hein, peut-être, je crois que c'est 1 sur 100 chez les femmes. Et dès que le clitoris est un petit peu hypertrophié, hein, moi j'ai vu des photos, de suite ça ressemble à un petit pénis, hein, ça c'est, y a pas photo là-dessus. Et le terme clitorisme caractérisait l'hypertrophie du clitoris. Hein. Ils avaient une marge de manœuvre qui était assez grande parce qu'ils disent qu'on pouvait parler de clitorisme, donc d'état pathologique, si le clitoris était plus grand que le petit doigt. Vous voyez qu'ils étaient vraiment tolérants. Hein. Par contre, De Graaf, je l'ai marqué ici, De Graaf était le premier du mouvement ovuliste. Alors, à cette époque-là, il y avait la pensée d'Hippocrate, hein, reprise par Galien après. C'était grosso modo, pour la procréation, l'homme émettait une semence, mais la femme émettait aussi une semence. Et il fallait que ces deux semences se rencontrent et coagulent pour former l'embryon. Hein. Donc il fallait que la femme ait un orgasme tout au moins en situation matrimoniale, parce que la sexualité des Romains n'était pas des plus cool non plus, hein, n'exagérons rien. Voilà. Et De Graaf a été le premier en travaillant et à dire « omnia ex ovo », tout vient de l'œuf. Donc, quelque part, il voulait réfuter la pensée d'Hippocrate. Mais ça va durer plus de 200 ans, le combat entre le mouvement ovuliste, qui est un peu plus, on va dire, scientifique, hein, il se basait sur des dissections, tout ça, et dans les traités d'anatomie que j'ai étudiés à peu près pendant cette période, hein, on voit bien que d'un côté, il y a les ovulistes, et il y en a d'autres qui campent sur la pensée d'Hippocrate, hein, qui est plus magique, on va dire, hein, qui est plus ancienne.
Ah, c'était jeté un peu trop vite, voilà.
Ça va apparaître dans la littérature, qui est extrêmement libre jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, dans le texte de Thérèse Philosophe. L'héroïne... Alors, philosophe, ça voulait dire... Philosophe, ça voulait dire s'opposer à l'Église aussi. L'Église, vous connaissez le sens de la vie, donner des réponses. Et les philosophes, eux, étaient dans une démarche, on va réfléchir au sens de la vie. Donc, ils faisaient concurrence à l'Église. Hein. Donc c'était un moyen de un peu déguisé de pouvoir passer, parce qu'il y avait comme par moment il y avait des censures, c'était très variable les censures, ça dépendait des liens qu'ils avaient avec les marquis, avec les différents prélats. Et dans ce texte, par exemple, l'héroïne va être dépucelée tout à la fin, et elle aura de nombreuses relations sexuelles sans qu'il y ait de dépucelage, uniquement par attouchement, par masturbation réciproque. Les termes sont un petit peu ambigus, et dans mon livre, je me suis fait abuser par... j'ai consulté, pas cette édition, une édition papier pourtant, qui avait été trafiquée, et les citations qu'il y a dans mon livre de Thérèse Philosophe sont fausses. Dans tout le livre de Thérèse Philosophe, il n'y a pas le mot clitoris, contrairement à ce que j'ai écrit dans mon livre. Hein, je me suis fait plaisir. Par contre, elles avaient des illustrations anciennes, hein, alors ça s'y est avéré, hein. On voit bien que les caresses et la masturbation faisaient partie de la vie courante. Il y a d'autres livres aussi, hein, il y a d'autres auteurs qui ont écrit des livres très très chauds sur la sexualité, connus, et que vous n'avez pas étudié quand vous étiez à l'école.
On a failli avec la BCD de l'égalité, mais ça a raté.
Il va y avoir un premier coup de tonnerre dans la vie sexuelle en 1750. Et on parle toujours de docteur Tissot, il y a eu quelques personnes avant lui, le docteur Tissot vivait à Genève. C'est ce mouvement de répression de la masturbation et a été initialisé par les protestants. Et ça, c'est vraiment, je n'y croyais pas trop quand j'ai découvert ça, mais c'est vraiment, il y a de très nombreuses recherches qui viennent dans ce sens-là. Et la masturbation était une pratique funeste. Et funeste, ça veut dire mortelle. Hein, c'est, vous voyez, il va de plus en plus mal et vous allez voir, il va mourir. Hein, mes recherches montrent que les protestants étaient dans une démarche de construire l'avenir. Et pour construire l'avenir, les catholiques étaient dans une démarche d'aller au paradis. Hein. Ils achetaient des indulgences, c'était la fin des indulgences, mais les catholiques étaient dans une démarche d'aller au paradis, ils se souciaient assez peu de l'avenir. Vous savez maintenant pourquoi j'ai perdu mes cheveux?
Tu avais une hypothèse, hein, je te l'ai entendu dire.
Il faut bien faire peur aux gens. Donc, oui, voilà, oui. Ça marche.
Et les protestants, eux, voulaient construire l'avenir. Et construire l'avenir, ça se jouait sur le nombre. Il fallait être plus nombreux. Il fallait que les protestants soient plus nombreux que les catholiques. Il fallait que les pays étaient en guerre. L'Europe n'était pas stabilisée comme maintenant, ou à peu près stabilisée comme maintenant. Était en guerre, donc ça se jouait sur le nombre. Et la masturbation réciproque était un moyen de contraception en couple. Hein. Donc il fallait lutter contre cette pratique en faisant peur aux gens. À la même époque, la gynécologie qui avait été très mise à mal pendant le Moyen-Âge, hein, ça avait été une période un peu terrible pour la gynécologie, la gynécologie revient. Vous voyez ici, on a une vulve qui est assez réaliste d'ailleurs, hein, et que un des rares éléments qui est étiqueté dans la vulve, c'est le clitoris. Et vous allez voir que dans toutes les planches d'anatomie, de la gynécologie. Ici, on représente l'accouchement. L'accouchement, on ne pense pas au plaisir, a priori. Ben, le clitoris est représenté. Et quelque part, ça m'a vraiment surpris sur toutes ces planches anatomiques du XVIIIe siècle, le clitoris est représenté, c'est le phare qui permet de s'orienter dans la vulve. C'est le repère principal. Alors on passe au XIXe siècle, la science progresse, elle explore de plus en plus. C'est Flourens d'abord qui découvre les bulbes vestibulaires. Hein, et il ne sait pas trop à quoi ça sert. Il comprend que c'est probablement un corps érectile, mais il ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est de chaque côté de l'entrée du vagin. Les choses ont progressé en Allemagne. Pourtant, en Allemagne, pays protestant, nous avons subi en France une prohibition de la masturbation. En Allemagne, il y a eu une répression violente de la masturbation. C'est ceinture de chasteté. Alors, sur les ceintures de chasteté aussi, quand on parle de ceinture de chasteté, on pense Moyen-Âge, les croisades et tout. Ça, c'est une affabulation écran pour cacher la vérité. C'était impossible de faire des ceintures de chasteté avec les moyens techniques du Moyen-Âge, tout au moins des ceintures de chasteté qu'on puisse porter plusieurs semaines. Hein. Par contre, une réalité, ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Ce sont des ceintures de chasteté qui étaient en fer galvanisé, hein, qui n'existaient pas au Moyen-Âge, qui étaient donc légères, qui étaient pour les adolescents, aussi bien les garçons que les filles, pour les empêcher de se masturber. Il y en a eu quelques-unes en France. Hein, on en retrouve sur les catalogues en France, mais en France, ça s'est peu diffusé. Et en Allemagne, c'était extrêmement répandu. Et en Allemagne, une jeune fille, une petite fille de 5 ans, qui était une masturbatrice récalcitrante, ou une jeune femme hein, qui était une masturbatrice, elle était excisée. Et c'était ce qu'ils appellent l'excision thérapeutique. Et comme ils connaissaient très bien tout le parcours interne du clitoris, ils extirpaient tout, hein, avec des complications chirurgicales, dramatiques, il n'y avait pas d'antibiotiques. En France, il y en a eu quelques-unes d'excisions thérapeutiques, hein, mais globalement, le corps médical s'y est opposé. Hein. Il y en a eu sur des clitorismes, hein, des hypertrophies du clitoris, mais sur les masturbatrices, le corps médical s'y est opposé. Quelque part, on a été sauvés par les catholiques. Hein. Toujours d'Allemagne. Alors c'est étonnant parce que c'est dans ce pays où la répression sexuelle est la plus forte, c'est là que des progrès scientifiques concernant la sexualité vont venir. Et c'est Koppel, qui était un gynécologue allemand. Et il a voulu étudier les organes sexuels sous l'angle des sens, des sensations, du plaisir. Hein. Et il a étudié le clitoris. Alors ici, il l'a représenté. Je vous mets de suite. Alors ça, c'est pour vous montrer la gravure d'origine. Et je vous le montre avec un petit coloriage. Donc ça, c'est le corps du clitoris qui généralement n'est pas visible. Généralement, il n'y a que le gland ici qui affleure dans le haut de la vulve. Hein. Il a démontré qu'il y avait de très grandes terminaisons nerveuses dans le gland du clitoris. Il n'a pas pu les identifier comme ça s'est fait plus tard. Et il a repéré le nerf dorsal du clitoris qui est en 3 branches. Hein. Et il disait même que le nerf dorsal du clitoris est plus gros en section que le nerf dorsal du pénis. Donc il en concluait que les femmes avaient plus de plaisir sexuel que les hommes. Ce qui était un peu rapide, mais en tout cas ça montrait sa manière de fonctionner, c'est-à-dire que pour comprendre le plaisir, il suivait les nerfs. Il y avait une démarche qui était assez scientifique, c'était logique comme démarche. Il a aussi découvert, et il dit dans son livre, je ne comprends pas pourquoi dans les excisions ils extirpent tout, parce qu'il n'y a que le gland qui est sensible. Hein? Il a aussi découvert que les bulbes vestibulaires faisaient partie du clitoris. Alors comment a-t-il procédé? J'étais assez surpris parce que ça m'a fait réfléchir d'ailleurs. Lors d'une dissection, avec une seringue, il a envoyé du sérum dans l'artère du clitoris et il a regardé visuellement quels étaient les organes qui se gonflaient. Et il a consulté que toute la partie, le corps, le gland, le corps et les deux piliers se gonflaient légèrement, mais que surtout les bulbes vestibulaires se gonflaient, donc ils étaient reliés à la même artère que l'artère du clitoris, et quelque part, l'unité de l'organe, c'est l'artère qui crée l'unité de l'organe. Quoi. Par contre, il dit qu'il a suivi les nerfs aussi, et il dit que dans les bulbes vestibulaires, par exemple, il dit le nerf qui s'enfonce dans le bulbe vestibulaire aux côtés de l'artère bulbeuse est si ténu qu'il n'y a probablement aucune sensibilité dans les bulbes vestibulaires. Je me le dis parce que je vous en reparlerai un petit peu après dans une autre dérive scientifique. Les manuels d'anatomie médicale se multiplient, ils sont de plus en plus gros. Un des premiers, c'est le Gray qui a fait le Gray's Anatomy. Les premières versions ne s'appelaient pas comme ça, mais c'est devenu après le Gray's Anatomy, qui est aujourd'hui un pavé comme ça, hein, qui est un gros truc et qui est toujours édité. Alors l'avantage, c'est que dans ces Gray's Anatomy, on a des rééditions tous les 10 ans. Hein. Il y avait des versions françaises, comme le Netter, qui est apparu un tout petit peu plus loin, un peu plus tard. Il y a des versions tous les 10 ans, qui sont dans les bibliothèques des facs de médecine. Et en comparant, en consultant ces différentes versions, on peut vraiment voir l'histoire du clitoris, comment il était représenté. Hein. Je me suis mis aussi la parce qu'elle est assez célèbre, la bulbe de Gray, hein, milieu du 19e siècle. Hein. Par rapport à celle que vous avez montrée avant, elle est très stylisée quand même.
Ouais, elle est belle. Hein.
Comment ?
Elle est belle.
Il y a quelque chose de stylisé, presque d'infantin, alors que l'autre était beaucoup plus réaliste avant. On voit que la pudeur doit progresser quelque part, mais le clitoris est très bien représenté aussi. Alors là, la couleur apparaît hein, au milieu du 19e siècle. Et là, vous voyez, c'est sur l'accouchement. Je vous ai mis la photo en grand, parce qu'on en a affaire à magnifique. Hein, dans la vulve, le seul organe qui soit étiqueté, j'ai grossi un peu l'étiquette, mais il était d'origine, c'est le gland du clitoris. C'est l'étoile du berger qui permet de s'orienter dans la vulve. C'est vraiment étonnant. Et sur tous les trucs, hein, c'est pas que sur celui-là, hein, tous ceux que j'ai consultés, c'est... Le 19e siècle va être marqué par quelque chose d'assez étonnant aussi. L'orgasme clitoridien était toujours lié à la procréation. Donc l'Église catholique recommandait l'usage du clitoris dans le lit matrimonial. Il y a même eu des textes assez rocambolesques, mais par rapport à ça, où il se posait la question, par exemple, alors, comme j'ai un peu de temps, je vais vous le dire, il se posait la question, pour qu'il y ait procréation, il fallait que les deux orgasmes soient simultanés. Hein, il fallait que les deux semences, d'après Hippocrate puis Galien, hein, il fallait que les deux semences se rencontrent. Donc il fallait que les émissions soient simultanées. Cette notion d'orgasme simultané, elle perdure encore, aujourd'hui encore. Bon. Et donc le mieux, c'était que monsieur stimule le clitoris, ou que madame stimule son clitoris pour qu'ils arrivent à avoir l'orgasme ensemble. Mais à un moment, les évêques de Paris ont statué sur le fait que si monsieur arrivait avant madame, est-ce qu'il devait continuer à caresser le clitoris de madame? Et alors, c'était plus simultané, donc c'était plus un rôle procréateur. Et alors, les évêques statuent, et à 7 sur 10, votent qu'il fallait pour, au motif que si madame n'avait pas d'orgasme clitoridien, elle n'était pas satisfaite, et elle risquait par la suite de pécher par pensée. Vous voyez le
donc, qu'est-ce qu'on a pensé ? Qu'on a péché depuis.
Le rôle de l'orgasme clitoridien qui a cette fonction de résoudre la tension sexuelle, d'apaiser l'esprit hein, pour lui éviter de pécher par pensée, était bien connu. Et voilà. Alors, dans le lit matrimonial, la femme était censée connaître l'orgasme clitoridien, l'orgasme tout court, mais essentiellement clitoridien. Mais quid de la jeune fille ou de la veuve? Il y en avait beaucoup, il y a pas mal de décès à l'époque. Et elles avaient l'interdiction totale de se masturber. C'était une pratique très risquée, puisque mortelle. Hein, les médecins tambourinaient que c'était mortel.
On a vu les dessins avant. Oui.
Voilà, on a vu les dessins. Donc, et si elle allait mal, si elle avait des problèmes, quels que soient les problèmes psychiques, trucs comme ça, c'était étiqueté une hystérie, hein, c'est-à-dire un blocage de l'écoulement des fluides sexuels. Donc la thérapie, c'était de rétablir cet écoulement. Et qui c'est qui s'y collait? Le médecin. Donc jusqu'en 1900, pendant tout le 19e siècle, les femmes qui avaient des problèmes d'hystérie allaient voir le médecin qui les masturbait. Hein, et, carrément. Voilà, je vais vous montrer. Alors, j'ai cette première... ça représentait à peu près plus de 50% du thermalisme.
C'est plus pour la cellulite, ça. Alors.
Et ça représentait 30% du chiffre d'affaires des médecins de ville. Hein. Une pratique stable, rentable. Parce que c'était une clientèle stable qui ne pouvait ni mourir de sa maladie, ni en guérir. Hein, donc elle revenait régulièrement. Quoi. C'est le thème de ce film Oh My God, hein, qui montre comment ça se passait effectivement, qui montre aussi que pour les médecins qui en faisaient beaucoup, c'était fatigant. Dans cette histoire, le jeune médecin, il a une tendinite à force de. Et il se trouve que c'est. Il invente le vibromasseur électrique. Alors le vibromasseur est un des premiers appareils, enfin c'est le quatrième appareil électrique qui a été inventé. Hein. Mais il a été inventé par les médecins pour améliorer. Et dans le livre qui en parle, le nom m'échappe, il est dans le livre, dans mon livre il y a les références, il montre que. Avant le vibromasseur électrique, il y avait toutes sortes de vibromasseurs qui avaient été mis en place, des trucs à pédales avec des il n'y avait pas de moteur. Au 19e siècle, il n'y avait pas de moteur. Donc le médecin avait des pédales avec des chaînes et des trucs qui faisaient vibrer. Il y avait des trucs à vapeur, trucs comme ça. Et quand même, c'était plus facile avec l'électricité. On va retrouver un truc étonnant par rapport à ça. C'est que ça, il y a eu dans le début du 20e siècle, par contre, hein, il y avait des premiers catalogues de vente par correspondance aux États-Unis. Hein, et ça veut dire toutes les aides que les femmes apprécient. Hein, donc vous avez la machine à coudre, le radiateur, le ventilateur, mais vous avez aussi. Pardon, pourquoi il n'est pas fait ? Voilà. Vous avez aussi les vibromasseurs. Et vous voyez bien que ces vibromasseurs, ils n'ont pas de fonction pénétrative. Hein. Ils ont l'effection de faire vibrer en surface. Hein. Ils étaient utilisés pour le clitoris. Ça montre aussi que c'est resté à peu près 20 ans dans les catalogues de vente par correspondance. Non, là, c'est toujours là. Alors, on voyait la femme avec le truc sur la joue. Là, voilà. Mais quelque part, au fur et à mesure que les choses avancent, et surtout au XXe siècle, hein, le but des natalistes, hein, qui poursuivent la répression contre la masturbation, le but des natalistes, c'est de ne privilégier que les pratiques reproductives. Donc, tout doucement, la sexualité se restreint à la seule pénétration. Et quelque part, le clitoris sort de la sexualité. Hein, c'est, avec ce mouvement-là, c'est quelque chose de. Puisque ce n'est pas pénétratif, c'est plus sexuel. C'est vers 1876, la date est un petit peu floue, enfin à peu près, hein, que les ovulistes vont gagner. Vous avez vu, hein, ça a mis donc 250 ans presque que le mouvement des ovulistes. C'est incroyable, parce que dans les livres, ils disaient c'est toujours la rencontre des deux semences. Mais il y en a qui disaient quand même, mais les femmes violées, elles n'ont pas eu de plaisir. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu de plaisir, qui elles tombent enceintes. Et les croyances hippocratiques trouvaient toujours des moyens. Et les ovulistes disaient, non, nous, on veut des preuves scientifiques. Hein. Il y a vraiment eu un combat entre la croyance hippocratique et le mouvement des ovulistes. Mais... Alors après, ça a été. Les Hippocrates, ils disaient oui, d'accord, mais comment a bien l'ovule ? Il faut qu'il y ait du plaisir pour que l'ovule advienne. Donc, il restait comme ça. Et finalement, les ovulistes ont réussi à démontrer que l'ovule était lié au cycle menstruel et que ça n'avait aucun lien avec le plaisir. Donc là, ça va être un virage pour le clitoris. Parce que si le clitoris n'a pas de fonction reproductrice, il devient inutile. Mais il devient un ennemi, puisque la masturbation, les moyens de contraception avaient progressé en fait. Hein. Le coït interrompu était très bien connu, les capotes commençaient à bien circuler, mais la masturbation réciproque était encore beaucoup pratiquée comme moyen de contraception. Donc pour les natalistes, le clitoris devenait un ennemi. Hein. Donc ils vont commencer à l'attaquer. Pierre Granier, le premier grand sexologue, celui qui a nommé le sadisme, le masochisme, c'est Kraft von Erbing, à Vienne. Vienne où habitait à côté Freud. Et c'est Freud qui va reprendre le flambeau, et du fait de sa notoriété, C'est lui qui va finalement devenir le grand exciseur psychique du XXe siècle. Alors dans la théorie de Freud, la petite fille joue avec son clitoris dans une sexualité inorganisée, comprenez, non reproductive, inorganisée socialement. Hein. Et que, alors après, il a inventé ce concept de phase de latence, hein, que entre 5 ans et 12 ans, les adolescents pensaient à rien, ce qui aujourd'hui est bien remis en question par les observations plus scientifiques. Et il disait que à l'adolescence, la jeune fille devait investir que le seul vagin dans une sexualité socialement organisée, reproductive. Et que si elle continuait à s'occuper du clitoris, c'était une régression. C'était... Et la théorie de Freud a été colportée avec le succès de la psychanalyse. C'est pas Freud qui a inventé ce que je vous montre. Disons, c'est que pas Freud qui a inventé ça. Hein, ça a été inventé 25 ans avant Freud, le fait de lutter contre le clitoris. Hein. On retrouve des écrits avant Freud. Mais par contre, c'est Freud qui a colporté, qui a été le principal porte-parole de ce mouvement. Quoi. Et avec Freud, c'était la grande victoire des natalistes. Alors, pour asseoir sa théorie aussi, il a inventé le terme d'orgasme vaginal. Ces deux mots n'apparaissent jamais avant 1905 dans son livre Les trois essais à propos de la sexualité. D'abord, depuis 350 ans, on disait que c'était le clitoris et que le clitoris était le principal organe de la sensibilité sexuelle des femmes, hein, du plaisir sexuel des femmes, et qu'il parlait du spasme vénérien, c'est un mot qui était très employé, spasme, quelque chose qui dure assez peu de temps finalement. Vénérien, ça voulait dire sexuel. Aujourd'hui, vénérien, pour nous, c'est devenu à coller aux maladies, hein, qu'on n'emploie plus trop. Hein, voilà. Il y a eu différents termes. Le mot orgasme est apparu au début du 19e siècle, mais il avait un autre sens. Dans un premier temps, c'était l'excès de colère. C'était un brusque excès de colère. C'est quelque chose de brutal comme ça. Hein. Voilà. Et ça a pris différents sens, mais c'est Freud qui a collé ces deux mots, orgasme vaginal. Hein. Personne ne l'avait fait avant lui. En faisant ça, il a jeté dans le Danube 350 ans de savoir médical. Et ça a marché. Depuis les travaux de Cobbett que je vous ai montré, hein, 1850, à partir de 1860, dans tous les traités d'anatomie médicaux, hein, il y en avait quand même beaucoup, anatomie médicale, le clitoris occupait à peu près 4 pages, hein, avec les illustrations, puis d'autres avaient travaillé, enfin à peu près 4 pages. Jusqu'en 1920, dans toutes les traités d'anatomie médicale, le clitoris va représenter 4 pages. Et à partir de 1920, c'est-à-dire quand la théorie de Freud va commencer à se propager et à prendre de l'essor, à partir de 1920, la représentation dans les traités médicaux va régresser et la partie congrue, je vais vous montrer ça après, la partie congrue de la représentation du clitoris, ce sera les années 60, avec 4 lignes. C'est-à-dire qu'en 50 ans, il est passé de 4 pages à 4 lignes. Hein, c'est vraiment. Là, vous voyez, par exemple, le grain d'anatomie, alors je ne vous ai pas montré les gravures précédentes, parce que ça n'a pas fait trop, mais ça, c'est la coupe qu'on appelle sagittale, hein, c'est pour montrer les différents organes de la femme. Mais avant, dans tous les le clitoris était représenté. Et là, à partir de 1948, il n'y a plus de clitoris. Toujours aussi une petite remarque sur ces. Alors, je vous ai montré aussi la beauté des dessins, c'est assez. Mais là, si vous voulez, l'utérus est là, et vous voyez que le tube utérin, il est gros comme un crayon à peu près, un petit crayon. Vous voyez que là, il est un peu exagéré. Et surtout, ils exagèrent le ligament de l'ovaire, hein, pour donner une grande importance à la fonction reproductrice. Importance qu'on a retrouvée chez nos dessins des adolescents. Qui ne connaissent pas leur vulve, qui connaissent que leurs organes reproducteurs, mais où l'utérus prend une fonction importante. Hein. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un type de représentation comme ça, hein, qui est a priori plus près de la réalité. Là, il y a vraiment Tu seras une mère, ma fille. Hein. C'est vraiment le langage qui est transmis. Alors, comme je vous le disais un tout petit peu trop tôt par rapport à mon diaporama, dans les années 60, dans tous les traités d'anatomie médicale, le clitoris est réduit à la part congrue de 4 lignes. Il y en a qu'on dit qu'il avait disparu, il n'a pas disparu, mais presque. Par contre, il a disparu de tous les dictionnaires. Il y était avant. Hein. Si vous allez chez vos grands-parents, enfin, si vous trouvez des vieux dictionnaires des années 40, 50, 60, il n'y a pas l'entrée clitoris. Hein. Alors qu'elle y était avant partout. Pour la petite histoire, la chanson « Les sucettes à la nuit » de Gainsbourg, écrit par Gainsbourg, chanté par France Gall, qui est une allégorie flagrante à la fellation. Hein. Aujourd'hui, même en maternelle, je n'ose pas la passer parce que tous les gamins poussent de rire. J'exagère un peu.
Non, je sais pas.
Un moment, j'avais comme sonnerie ce que ma femme m'appelait.
D'accord.
Elle s'appelle Annie.
Ah, elle s'appelle Annie, d'accord.
Et les gens étaient gênés quand ils entendaient ça. Autour de moi, les gens étaient gênés. Quoi. C'était assez étonnant. Comme quoi, l'allégorie à l'appellation, aujourd'hui, elle est flagrante. Quoi. Et ben, cette chanson, elle est sortie en 66. Elle tournait en boucle sur toutes les radios. Et en 66, il y avait la censure. Ça veut dire que les censeurs n'ont pas compris le sens de la chanson.
Les chanteuses non plus.
France Gall elle-même. France Gall pour se moquer d'elle, entre guillemets, quoi. Dans un but un peu de.
Oui, elle n'a pas compris.
C'est elle était un peu naïve.
À la limite, il y aurait un des censeurs qui aurait compris. Il aurait pu laisser passer parce que c'était pas de la sexualité. Parce que la sexualité, c'était la pénétration. Et uniquement la pénétration vaginale. Hein? Donc, il faut voir à quel point en 1960, on était dans un obscurantisme sexuel et clitoridien. Quoi.
Cette semaine, il y a une seule avocate qui est aux éditions de Monceau Denis sur l'histoire de l'ESC. Tout le monde est tourné autour.
On le lit partout. Donc, on
le lit partout. Non, mais pendant le procès, non, on ne l'a pas dit.
Il va falloir, on continue s'il vous plaît, on fera les questions. Il va falloir attendre la fin du XXe siècle pour que l'anatomie du clitoris soit de nouveau étudiée. Alors, dans les traités d'anatomie médicale, on va retrouver à partir des années 80, les féministes ont fait un travail incroyable par rapport au clitoris. À la fin des années 80, le clitoris revient dans les traités d'anatomie médicale en utilisant les vieux travaux de Cobalt, hein, parce qu'on n'avait que ça. Et O'Connell était, parce qu'elle est décédée, une neurologue australienne. Elle ne comprenait pas trop ce qui se passait parce que, vous savez que dans le traitement de la prostate, il y a une difficulté, les nerfs érecteurs et les nerfs sensitifs du pénis sont collés à la prostate. Et c'est très difficile de traiter la prostate sans endommager les nerfs érecteurs. Et au début, ils n'avaient pas trop attention, mais à partir des années 80, ils ont commencé à travailler ça. Ils sont toujours en quête de progrès dans ce sens, de pouvoir traiter la prostate sans atteindre les nerfs érecteurs. Et elle disait, cette urologue disait, on fait attention pour les hommes, effectivement, à ça, hein, mais pour les femmes, on y va. Quand on fait une totale, l'ovarectomie, on retire l'utérus, il dit on fait attention à rien. Quoi. Et elle disait, mais pourquoi on fait attention à rien? Parce qu'on ne sait pas où sont les nerfs. Hein? Si on savait où sont les nerfs, on pourrait essayer de les contourner, mais on ne sait même pas où ils sont. Donc elle a travaillé là-dessus, elle a produit ce dessin de synthèse, qui est assez loin de la réalité anatomique, enfin, qui donne des principales grandes idées. Donc on retrouve le gland du clitoris, hein, la partie visible, le corps du clitoris, les deux piliers, hein, la part représentée des insertions, enfin bon, peu importe, hein, et les deux bulbes vestibulaires. Et je fréquente les congrès de sexologie, hein, je vais y aller prochainement, là, en avril. Quand ils préparent de ça, ils disent que O'Connell a découvert l'anatomie du clitoris et qu'elle a découvert que les bulbes vestibulaires faisaient partie du clitoris. Donc vous voyez que l'obscurantisme médical sur tout ce qui s'est passé avant est flagrant, quoi. C'est quand même assez étonnant. Pire encore, quand c'est arrivé ce dessin, les médecins sexologues ont dit « Ah, le clitoris descend d'une manière importante de chaque côté du vagin. Donc lorsqu'il y a pénétration, le clitoris est stimulé. Donc orgasme vaginal égale orgasme clitoridien. Ce qui d'un point de vue scientifique, et ça c'est des propos qu'on entend au XXIe siècle, hein, ce qui d'un point de vue scientifique ne tient pas la route puisque personne n'a pu démontrer qu'il y avait des nerfs sensitifs dans ces parties-là. Donc si vous voulez, comme les sensations suivent les nerfs, même chez les femmes, comment ça fonctionnerait quoi, bon. Et puis personne n'a fait la neurologie du clitoris, n'a refait la neurologie du clitoris. Hein. Donc vous voyez qu'on est encore en plein obscurantisme et qu'il y a encore des... Pour satisfaire la notion freudienne de l'orgasme vaginal, on va détourner des notions scientifiques, aujourd'hui encore au XXIe siècle. Ça paraît aussi, alors, d'un point de vue... il fallait classifier les maladies, et notamment les maladies mentales. En France, qui est quand même dominée, la France c'est la fille aînée de la psychanalyse. Les psychiatres qui sont beaucoup sous un angle psychanalytique ont refusé de faire une évaluation. Quand vous parlez évaluation à un psychiatre, c'est comme si vous vouliez le violer. Hein, il réagit pareillement. Un psychiatre freudien, un psychanalyste. Donc la Sécu, qui voulait quand même essayer de comprendre et d'avoir des éléments de tarification, de comparaison et de ne pas payer sans savoir où elle allait, a importé un manuel américain, le DSM. Hein. Dans la version 3, le DSM 3 qui est paru en 1980, l'anorgasmie dans ce bouquin, ça pourrait discuter, parce qu'il pourrait y avoir des anorgasmies fonctionnelles, il y en a probablement d'ailleurs, mais c'est psychique, donc on l'a mis là-dedans. Dans ce bouquin, dans la version de 1980, ils disent clairement l'orgasme est vaginal ou clitoridien, et si l'orgasme n'est que clitoridien, ce n'est pas un motif de retenir le diagnostic d'anorgasmie. Donc quelque part, ça tenait à peu près la route, quoi. Dans la version 4, qui était en... Alors, la 5 est rentrée en service ou pas ?
Ça y est, ça y est.
Il n'y a pas longtemps. Non. Mais dans la 4, hein, qui est parue en 94, révisée en 2000, hein, mm-hmm. et qui a duré jusqu'à l'année dernière, on va dire, hein, plus de clitoris. Le mot clitoris n'était plus dedans.
Mais tant mieux, non ?
Comment ?
Tant mieux. Là, il n'est plus susceptible de désordre mental.
Ah. Oui, mais dans la définition de l'orgasme, il n'y a plus de clitorisme. La définition de l'orgasme est là-dedans.
D'accord. Ah oui, d'accord. Dans la définition de l'orgasme,
l'orgasme était uniquement vaginal.
Il ferait un orgasmie. D'accord.
Et, alors, je n'ai pas corrigé, mais parce que le DSM-5 est paru aux États-Unis en 2013. Et donc il est rentré quand en service en France ?
Le DSM-5, oui. Il y a 2 ans à peu près, ouais. Un an ou deux, hein, déjà, ça passe vite.
Il n'était pas traduit en français.
On est en 2015 déjà.
Il y avait très peu traduit en français.
Ça fait, c'est Camille là.
Non, en 2013 il n'était pas, j'ai eu un mal fou à le consulter, il y a des gens qui s'opposaient violemment à sa sortie, enfin, bon, on ne va pas débattre de ça, oui, mais dans le DSM-5 le clitoris revient, c'est déjà une bonne nouvelle.
Oui. Il y a d'autres maladies qui sont sorties.
Le clitoris, le retour.
Voilà. Alors, on va terminer avec un petit schéma, si vous voulez. Alors, dans ce que je vous ai présenté, si vous voulez, le clitoris a toujours été connu et reconnu, sauf au XXe siècle. Hein, c'est quand même un paradoxe incroyable. Hein. Alors, pourquoi toujours c'était connu ? Les excisions sont apparues il y a 8000 ans, peut-être 10000 ans. Hein. Les dates récemment ont reculé un tout petit peu, au moment de la sédentarisation. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant. J'ai encore un peu de temps.
Tout à fait, prends ton temps.
C'est quelque chose qui est intéressant, parce que quand on regarde ce qui se passait dans l'école, nos ancêtres étaient cueilleurs-chasseurs. Hein. Mm-hmm. Les différenciations sexuelles entre les hommes et les femmes étaient faibles, on va dire. C'était pas nul, c'était faible. Hein. L'histoire de l'homme préhistorique qui ramène la femme en le tirant par les cheveux, ça me paraît probablement faux. Quand on regarde les groupes d'hommes cueilleurs-chasseurs qui existent encore, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais il y avait assez peu d'écart entre les hommes et les femmes. Et quand on regarde les tribus des singes, par exemple, il y a assez peu d'écart entre les hommes et les femmes. Il y a même des tribus où ce sont les femelles qui demandent, hein, qui suggère. Hein. Et lors de la sédentarisation, pourquoi l'excision est apparue au moment de la sédentarisation? C'est vrai, c'est... Il y a plusieurs hypothèses qui circulent, et moi je pense que la plus probable, c'est que tant que l'homme était cueilleur-chasseur, il ne possédait rien. Il possédait quelques silex, quelques ustensiles de cuisine, mais comme il se déplaçait, il ne possédait rien. Hein. Donc la question de la filiation avait peu d'importance. Et à partir du moment où il devient sédentaire et qu'il possède un champ, un troupeau, une maison, il veut les transmettre à son fils et pas au fils du voisin. Hein. Donc là intervient la notion qu'il faut asservir la sexualité de la femme pour pas qu'elle aille voir le voisin ou qu'elle réponde aux avances du voisin. Donc cette excision apparaît. Les premières excisions apparaissent d'ailleurs de manière assez brutale, avec en plus des infibulations, c'est-à-dire la suture des petites lèvres. Bon, enfin, des trucs assez... Cette excision va perdurer très longtemps. On la retrouve à Babylone, on la retrouve à Marie, qui était un petit peu avant. Et on la retrouve dans tout l'empire, chez les Égyptiens. Dans l'empire égyptien, on a retrouvé des momies excisées. Même celui qui a travaillé là-dessus a dit heureusement que Moïse a ramené d'Égypte que la circoncision. On y a échappé belle.
Pas partout.
L'Antiquité, donc il y a Hippocrate et Galien, les textes sont. On n'arrive pas à tout savoir sur Hippocrate et Galien par rapport à la sexualité. On tombe d'abord sur énormément de textes en français qui sont expurgés. Hein. Tous les textes du 19e siècle ont été expurgés, donc il faut retrouver les textes anciens pour retravailler, ce qui est assez compliqué. Le Moyen-Âge est une période très trouble. Hein. Le droit des femmes a probablement reculé à partir de l'arrivée du christianisme dans l'Empire romain. En 300 après Jésus-Christ, le christianisme s'est bien répandu, et les mouvements chrétiens ont défendu les droits des femmes, des mères, des enfants, ils ont un peu protégé. Et quand l'Empire romain s'est tombé en 600 après Jésus-Christ, sous l'impulsion de l'invasion barbare, hein, dont les Francs d'ailleurs, les Francs ont ramené des pratiques sexuelles beaucoup plus dures, se sont opposés à la nudité. Jusqu'en 600, il y avait des Christs en croix qui étaient nus, on voyait le sexe, ils ont tout cassé, ils voulaient pas qu'on... Enfin, le refus de la nudité, ça vient des barbares, ça vient pas du tout des catholiques ou des romains. Vous avez les statues romains, c'est encore c'est pas gagné aussi, parce que autant l'homme il pouvait avoir son sexe complet, la femme elle avait rien. Elle avait des seins, mais au niveau du pubis elle avait rien. C'était irreprésentable. Donc le Moyen-Âge, la première moitié du Moyen-Âge, le Moyen-Âge a duré très longtemps, la première moitié du Moyen-Âge était une période qui a sûrement été très très dure pour les femmes, avec elles pouvaient être répudiées, elles pouvaient être... ça s'est un peu amélioré à la fin du Moyen-Âge. Étrangement, ça s'est amélioré à la fin du Moyen-Âge avec les troubadours. Et c'est les troubadours qui ont ramené des Arabes, qui étaient en Espagne, hein, qui ont ramené des Arabes l'amour courtois. Hein. C'est un paradoxe aujourd'hui quand on voit que l'amour courtois a été produit chez nous via les Arabes, alors qu'aujourd'hui les Arabes avec les femmes ils sont pas. Et
les Arabes musulmans.
Les musulmans, oui, oui, oui. Bah, les...
Intégrés, c'était les Arabes. Ouais. Musulmans.
Voilà. Et au passage, l'Église catholique a beaucoup participé après pour que le statut de la femme remonte, hein, avec d'abord l'invention de la virginité de Marie en l'an 1000. C'est vrai que la virginité de Marie n'est pas dans les évangiles, c'est une invention de l'Église, et que c'était pour que dans le panthéon chrétien il y ait une femme, hein, c'était bien ça. Et puis peu après ils ont créé le mariage, c'est un sacrement, le sacrement du mariage, hein, et ce qui est un sacrement civil, hein, le sacrement était réservé aux ecclésiastiques. Ça commence vite, mais pour protéger les femmes aussi. Bon, ça c'est un petit détail sur le Moyen-Âge.
Pardon, excusez-moi, mais c'est pas à cette époque-là que le nombre de femmes, il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été assassinées, enfin brûlées, pour sorcellerie. Alors, est-ce qu'il y a des centaines de femmes ou pas ? Non,
alors,
je ne comprends pas.
C'est, vous confondez avec l'époque moderne qui se passe après le Moyen-Âge. C'est juste après le Moyen-Âge, même si la France racine dans le Moyen-Âge.
D'accord.
Et beaucoup de femmes qui étaient poursuivies en sorcellerie. Alors, il y a eu toutes sortes de cas, mais dans les parties qui étaient bien contrôlées par l'Église, souvent, elles souffraient de pictorisme.
D'accord. Hein? Donc, c'est plus moderne.
C'est l'époque moderne qui commence avec la découverte de l'Amérique. Ça prend en racine un petit peu avant, mais c'est pour vous demander à un historien, pardon.
D'accord.
Après, il y a eu des féminicides dans les duchés au pourtour. Il y a des trucs horribles qui sont passés à cette époque-là aussi. Bon, Colombo qui découvre au début de la Renaissance, qui découvre le clitoris, les graphiques, et là il va y avoir l'âge d'or du clitoris, hein, où il sera le mieux représenté, où il est bien présent dans les textes. Là on manque de textes, vraiment le clitoris c'est son âge d'or. Et jusqu'en 1880 à peu près, où la procréation se passe sans le clitoris, et là ça va être un cataclysme. Et le clitoris va tomber, va descendre, hein, attesté dans les traités, pour les documents officiels de la médecine, hein, jusque dans les années 60 où on peut vraiment parler d'excision psychique. Le terme d'excision psychique n'est pas de moi, hein, j'ai trouvé dans des livres et j'ai trouvé tout à fait.
C'est parce qu'il fallait remonter le taux de natalité, c'est ça?
Tout à fait.
Donc c'était l'organe vaginal qui fait.
Voilà. Alors après, je ne vous ai pas parlé, mais parce que c'est intéressant de la croiser avec les travaux des démographes. Hein. La démographie de la France en 1900, juste avant Freud, hein, la démographie de la France a baissé terriblement. Il y a eu une épidémie, les guerres napoléoniennes, je ne sais pas quoi. Donc il fallait faire des gamins. Hein. Et c'était très présent après la guerre aussi. On l'a connu, ça. Après la guerre, hein, on mettait la pression là-dessus. Hein. Et alors aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, les choses ne sont pas gagnées. Hein. Parce que autant... Alors, je m'excuse, je ne suis pas très visible, mais je vais le commenter. Dans la société civile, on va dire, hein, dans les magazines, les jeunes entre eux, tout ça, le clitoris revient. Hein. Il commence à être connu, à peu près quoi. Les adolescents ne le connaissent pas. Mais par contre, quand on les retrouve, moi je les vois en consultation à 18 ans, ils le connaissent. Hein. Ils ne savent pas toujours s'en servir, mais enfin bon. Il y a un retard, grosso modo, les choses s'améliorent. Par contre, hein, et je me base sur le DSM, dans le monde médical, l'obscurantisme clitoridien s'enfonce encore. Hein.
Tu les vois dans les congrès de sexologie, bien sûr.
Les sexologues eux-mêmes ?
Les sexologues eux-mêmes, oui. Alors ça dépend, mais dans les représentations officielles, les communications, les congrès, c'est flagrant, quoi.
Comment vous l'expliquez ?
J'ai rencontré... il y avait un truc de la santé sur la comédie, là j'étais avec quelqu'un, j'ai été voir le site de ceux qui font de la recherche, je ne me rappelle plus. Et il y avait une jeune médecin...
Une CERM, oui.
Il y avait une jeune médecin qui était là. On mène une enquête actuellement. Donc on aurait besoin que des scientifiques nous rejoignent, parce que moi, en enquête, je suis à un niveau un peu bas, quoi. Donc, je me demande s'il y a des médecins d'une CERM. Et cette jeune femme qui est un médecin m'a dit, mais vous savez, hein, un médecin, quand il fait de la recherche, c'est pour booster sa carrière. Hein. S'il fait de la recherche sur le clitoris, il la plante.
C'est un avis, hein.
Alors, il y a un moment...
C'est pas obligé de le dire, hein.
Les mandarins sont pas obligés au présent.
Alors...
C'est la même problématique qu'avec l'avortement.
Quelque part, et l'avortement, c'est le mouvement nataliste qui était contre l'avortement. Hein, on rejoint le mouvement nataliste chez les médecins, il n'est pas mort. Hein.
Donc, chez les médecins, il n'y a pas de mouvement féministe.
Alors ça serait intéressant à étudier, hein, le rapport entre féministes, est-ce qu'il y a des médecins féministes, oui, c'est ça. Les gynécologues, les gynécologues ne connaissent pas le clitoris.
Ils n'aiment pas faire des idées chez les gynécologues.
Est-ce qu'on pose des questions maintenant ou est-ce qu'on attend la fin? On se garde les questions, écrivez-les.
Alors,
c'est vrai que on a beaucoup de questions, mais bon.
Derrière l'omerta clitoridienne, sexuelle en général, mais clitoridienne, parce que c'est vraiment flagrant sur le XXe siècle, je pense que ça cache une deuxième omerta qui est assez étonnante. C'est que. On n'a pas de définition de l'orgasme qui soit cohérente. Quoi. Le point culminant du plaisir, ça ne veut rien dire. Chacun s'autodétermine. Dans une émission de Brigitte Lahaye, elle essayait de les faire parler de l'orgasme. Quoi. Il y avait 6 femmes qui ont parlé, il y a eu 6 définitions complètement différentes, on pouvait trouver aucun lien entre elles. Le plus étonnant, c'est qu'il y avait une femme qui avait, à sa voix, qui avait peut-être mon âge, un peu plus jeune à peine, et elle insistait, elle disait, moi l'orgasme, c'est quand il rentre du travail et qu'il me regarde. C'est là qu'elle avait le plus de plaisir. Quelque part, elle le défendait. Alors Brigitte, là, elle ne voulait pas l'accepter. Et elle formulait pour le faire reconnaître. Vous voyez que cette définition est une non-définition. Alors, si vous voulez, on arrête là, parce qu'on a parlé de l'histoire du clitoris. Mais actuellement, avec une collègue, on essaie de progresser sur cette définition de l'orgasme.
Ben vas-y, détail du minute.
Détail du minute.
Oui, bien sûr. Il y a une recherche en cours qui vaut ce qu'elle vaut parce que tu dis que tu manques de scientifiques pour qu'elle soit vraiment...